RCFM, le club de la presse.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Club de la Presse. L'actualité insulaire est parfois d'ailleurs commentée, décryptée par mes confrères de la presse régionale. Ce soir, Jean Vitus Albertine de France 3 Corse, Via Stille et Guillaume Padoval de Corse Matin. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Pas vraiment de parité ce soir, pas de parité du tout, même puisque notre invité est André Pacou, le président de la section Corse de la Ligue des Droits de l'Homme. André Pacou, bonsoir.
Soir.
Nous reviendrons plus particulièrement avec vous sur la session de l'Assemblée de Corse de la semaine dernière consacrée aux dérives mafieuses. Vous nous direz ce que vous en avez retenu. On sait que si vous partagez le diagnostic des collectifs, la LDH diverge sur les moyens à mettre en œuvre pour y faire face. Nous dirons aussi deux mots en fin d'émission sur la Coupe du Monde de foot au Qatar, boycott ou pas. S'agit-il de la Coupe du Monde de la honte, comme on l'entend beaucoup ces dernières semaines. Après un silence assourdissant de près de 12 ans, elle a été en effet attribuée au Qatar en 2010. Mais avant, messieurs, premier thème abordé, le processus de discussion avec Paris. On le croyait moribond, encalminé. Et voici qu'à la faveur d'une rencontre ce mardi entre Gérald Darmanin et Gilles Simeone, l'espoir renaît. Le Club de la Presse, vous avez le sommaire, c'est parti.
RCFM, le Club de la Presse.
Gilles Simeone, ce matin à la tribune de l'Assemblée de Corse, est donc revenu sur cette rencontre, réaffirmant sa volonté de poursuivre les discussions. Jean Vitus Albertini, vous étiez pessimiste ces dernières semaines sur l'issue de ce processus. Vous êtes plus confiant aujourd'hui ?
Non, j'ai toujours pensé qu'il ne s'arrêterait pas. Il peut s'interrompre, il peut y avoir des hauts, des bas, on l'avait dit à une précédente émission. Maintenant, sur le résultat final, oui, je ne m'attends pas à grand-chose. Hein. Très franchement, je vois pas sur quoi ça pourrait aboutir, hein, parce qu'on voit pas les projets d'un côté. Et puis de l'autre côté, il faut dire aussi les choses. Macron, c'est pas un décentralisateur, c'est un jacobin. Hein. Il a commencé sa carrière politique du côté de Chevènement. Je pense pas qu'il ait beaucoup évolué sur ces notions de décentralisation et de pouvoir local. Donc je pense que sur le fond, il ne faut pas s'attendre à grand-chose.
Mais on pensait qu'à un moment donné, on pensait qu'il n'allait pas reprendre tout simplement.
Non, ça non, parce que finalement, personne n'a intérêt.
Alors que là, les relations se réchauffent.
Parce que quelle est l'alternative ? Quelle est l'alternative s'il n'y a plus de discussion ? Même sur les dossiers prisonniers, vous les faites sortir comment ? S'il n'y a pas de discussion ? Sur les autres dossiers, importants également, hein, même des dossiers de fond, hein, je dirais. Si vous n'avez pas de discussion, vous faites comment ? S'il n'y a pas de discussion, il y a l'affrontement. Et je pense que ni du côté de l'État, ni du côté Corse, les gens ne veulent rentrer encore dans un nouveau cycle. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. Hein. Ça va dépendre des uns et des autres. Mais je pense que ni l'État, ni la majorité territoriale, aujourd'hui, n'a intérêt ni la volonté de stopper le processus.
Guillaume Padovan et Gérald Darmanin est annoncé en Corse autour du 10 décembre pour une visite, dit-on, de 4 jours. Hein. Ce n'est plus une visite, ce sont carrément des vacances, hein, 4 jours. On peut en attendre des annonces fortes de cette visite, de nature à relancer le processus.
On va espérer qu'il ne s'agira pas de vacances, mais bien de travail assidu. Puisque le processus et la Corse le mérite, en ont besoin. On pourra peut-être noter des avancées à l'issue des avancées de ce processus même, à l'issue justement de ces 4 jours.
Parce que les points de blocage demeurent.
Des annonces particulières pour l'instant. Je ne vois pas quelle annonce forte. Particulière pourrait donner Gérald Darmanin, sachant que, encore une fois, le processus, nous l'avons rappelé à maintes reprises, ne fait que commencer. Nous sommes loin quand même de la motion qui avait été votée par l'Assemblée de Corse, par tous les groupes.
Début octobre.
Début octobre, nous sommes très loin finalement de ce qui avait été prôné. Donc, nous verrons bien, une fois de plus, ce que cette rencontre donnera.
André Pacou, quel regard portez-vous sur ce processus de discussion et surtout sur ces atermoiements ?
Écoutez, je pense que je peux rejoindre ce qui a été dit depuis tout à l'heure, à savoir que c'est un processus fragile. Fragile. Alors, je pense que, sur le fond, effectivement, ce que disait Jean Vitus, c'est une réalité. Je crois que les Corses aspirent à rentrer dans une période longue d'apaisement. Voilà, je crois qu'il y a une fatigue de la société corse par rapport, effectivement, à des tensions, des affrontements. Je pense que ça, c'est réel. Mais il n'empêche qu'il y a des verrous, là, qui demeurent. Hein, je ne vais pas vous étonner pour vous dire que l'un des verrous qui demeure, c'est la question des prisonniers politiques. Darmanin vient le 8 ou le 10 en Corse. Quelques jours après, on verra ce que dit effectivement la cour d'assises par
la
rapport
cour
à la cour d'appel, pardon, excusez-moi, par rapport à la situation d'Alessandri. On recule la situation de règlement par rapport à Ferrandi. Vient se greffer aussi un véritable souci, c'est celui du Figet, qui est permanent, qui pèse
Figet,
en permanence.
C'est le fichier précisé.
Voilà. Ben c'est un fichier en fait qui permet entre guillemets de après condamnation de suivre les gens en leur demandant par exemple s'ils se déplacent en Corse d'aller au commissariat pour pouvoir dire qu'ils se déplacent ou s'ils vont à l'étranger, il y a une démarche encore plus lourde. En fait, c'est une réduction de la liberté d'aller et venir, même quand les gens ont fini leur peine. Et donc quand vous refusez de rentrer là-dedans, eh bien vous êtes vous passez devant le tribunal et vous avez des amendes et on voit bien que les amendes augmentent de plus en plus. En tout cas, les tensions aussi augmentent par rapport à tout cela. Je pense qu'il y a cette hypothèque de l'antiterrorisme qu'il faut effectivement lever. Il faut lever. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut espérer, en tout cas pour la Ligue des droits de l'homme, c'est de faire en sorte que tout soit effectivement constructif pour cet apaisement. Mais il y a comme un décalage entre les dossiers qui sont mis sur la table, qui paraissent extrêmement techniques, et puis quand même des attentes qui sont ceux de réformes législatives fortes.
Puisque vous parlez, André Pacou, d'apaisement, on va poursuivre, on va avancer, parce que si le processus de discussion n'a pas encore repris, celui des bombes, en revanche, semble bien engagé. Plusieurs actions clandestines revendiquées au pas ces derniers jours, et Corsica Libre, dimanche dernier à Corte, qui a réaffirmé son soutien au FLNC, Pedro Antonio Tomasi, porte-parole du parti indépendantiste, s'en est expliqué ce mardi dans l'émission Bintiminoudi. On l'écoute et vous réagissez.
Aujourd'hui, la situation en Corse est une situation extrêmement préoccupante, notamment sur le terrain de la spéculation foncière et immobilière. Les Corses sont chassés de leur pays par l'argent roi. Nous sommes des militants d'une paix réelle en Corse. Une paix réelle en Corse, ça veut dire que la paix, elle ne résulte pas de l'absence apparente de conflit ou de l'absence apparente de confrontation. Elle résulte du fait de traiter au fond, les causes du conflit. Je crois que de ce point de vue, nous avons par le passé apporté des contributions politiques et nous sommes prêts à en apporter de nouveau. Mais aujourd'hui, face à cette situation qui est une situation très préoccupante, effectivement, notre solidarité, et nous l'avons redit, est entière avec les militants du Front.
RCFM, le club de la presse.
Guillaume, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le dépôt des armes de 2014 n'est plus qu'un lointain souvenir ou ces attentats, même s'ils sont de plus en plus nombreux, ne sont que des poussées de fièvre sporadiques ?
En tout cas, d'un côté comme de l'autre, on les considère comme tels, c'est-à-dire comme des poussées de fièvre sporadiques. D'un côté, vous avez l'État qui ne saute pas sur l'occasion pour dire « il y a une reprise de la violence ». De la part du FLNC, nous la condamnons et dans ces conditions, nous cessons toute discussion. Et de l'autre, il y a une majorité à l'Assemblée de Corse qui constate effectivement une reprise de l'activité, mais sans faire pour autant, sans acter de façon très officielle, parce que le FLNC ne l'a pas acté lui-même. Une reprise, je dirais, de la violence politique, puis pour reprendre les
termes de Jonathan Mondoloni. Il a acté tout de même, puisqu'en juillet dernier, il avait revendiqué ses actions, et un an auparavant, il a fait part de son intention de reprendre le chemin de la nuit combattante. Voilà, je cherchais l'expression.
Si justement, les discussions et les gestes de la part de l'État n'était pas au rendez-vous et n'était pas à la hauteur finalement des enjeux. On voit bien qu'il y a une espèce de jeu de dupes autour de cette violence politique dont on ne dit pas tout à fait le nom.
Jean Vitus, on est reparti comme en 40.
Moi, j'ai l'impression que petit à petit, tous les mécanismes se remettent en place. Je vois Sergio Badriot qui s'est remis en ordre de bataille. Mmh. Je vois la conférence, le congrès, enfin l'Assemblée générale de Corsica Libre, avec le vote d'une motion de soutien politique au FLNC. Ça n'était plus arrivé depuis belle lurette. On ne soutient pas politiquement une organisation qui n'existe plus. C'est une organisation qui existe et qui a repris visiblement son activité. Alors, c'est vrai que, si j'ose dire, pour l'instant, on est dans une violence perlée, mais il y a les problèmes de fond, il y a la situation économique, il y a la spéculation immobilière, effectivement, il y a la situation sociale, les gens ne peuvent plus acheter ici, les jeunes Corses, il y a le problème démographique aussi, ça on l'entend beaucoup autour de nous. Alors, tous ces facteurs-là, s'ils ne sont pas résolus par le processus politique, et ça m'étonnerait qu'il le soit, mais au moins qu'il y ait quelques pistes. Si ça n'est pas fait, je pense qu'on retournera à une violence généralisée, peut-être pas immédiatement, mais dans les mois ou les années à venir. Ça me paraît inéluctable, vu la tournure que prennent les événements.
André Pacou, faut-il s'inquiéter de ce regain de violence dans cette situation décrite par Jean Vitus comme explosive ? C'est le mot.
Oui, je crois qu'il faut s'en inquiéter. Il faut le rattacher aussi à ces émeutes qui ont eu lieu au printemps dernier. Je crois qu'on voit bien qu'il y a des tensions qui s'accumulent et qu'effectivement, elles ne trouvent pas de débouchés politiques sur des questions extrêmement sensibles d'un point de vue social, simplement le droit de se loger. Il n'est même pas question simplement d'acheter, il est question de louer. Donc on est quand même dans une situation extrêmement difficile sur le plan social globalement. Et évidemment, là, il y a des attentes qui existent. Et je pense que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour la Corse si on voyait se développer
il y a un cocktail
et s'accumuler
explosive.
Des violences
il
politiques.
Il y a un cocktail explosif, on peut mélanger le social, le politique.
Il est mélangé. La question de la spéculation, c'est une question économique, certes, mais qui pose de véritables problèmes sociaux. Donc, forcément, c'est mélangé. Donc, effectivement, ce substrat-là, il est possiblement exploitable par rapport, évidemment, à des groupes ou des partis qui sont plus dans une logique, encore une fois, d'affrontement et de rupture, plutôt que dans un processus graduel et démocratique. Donc voilà, c'est tout. Et je crois que de ce côté-là, oui, c'est inquiétant pour la société corse.
Allez, on referme cette première longue partie.
RCFM, le club de la presse.
Et retour sur la session de l'Assemblée de Corse consacrée aux dérives mafieuses. C'était la semaine dernière. Une session marquée notamment par cette déclaration forte du président de l'exécutif, Gilles Simeone.
Que ce soit dans le domaine de l'urbanisme, que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit dans le domaine des déchets, que ce soit dans n'importe quel domaine, lorsque moi, président du Conseil exécutif de Corse, ou lorsque les élus de cette Assemblée votent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient nous dire à l'oreille, mafieux ou pas mafieux, tu vas faire comme ça ? Moi, je vous dis qu'il n'y a personne qui vient me tenir le bras. Et que les Corses, et je vous le dis en vous regardant, peuvent avoir confiance en moi et peuvent avoir confiance en nous pour que nous fassions en permanence prévaloir l'intérêt général.
RCFM, le club de la presse.
André Pacou, il n'y a absolument aucune raison de douter de la sincérité de Gilles Simeone quand il fait cette déclaration, aucune, mais force est de constater que l'on parle sans cesse d'emprise mafieuse sur la société corse, de pression exercée sur les décideurs, sur les élus, sauf que personne, et ce n'est pas faute de poser à chaque fois la question, personne n'affirme avoir subi des pressions. Alors comment l'interpréter ? Le monde politique est totalement étanche, il n'y a pas de porosité ?
Alors, par rapport à la déclaration du président de l'exécutif, je pense que c'est important. Au-delà de la personne, c'est aussi le message qu'il porte avec la situation qui est la sienne. Donc, je crois qu'il est important qu'il dise ces choses-là. C'est important qu'un homme politique dise ces choses-là. La deuxième chose, évidemment, qu'il y a effectivement des pressions, qu'il y a, on le sait très bien, du racket, qu'il y a effectivement des tas de phénomènes qui sont des dérives mafieuses, hein. La Ligue des droits de l'homme ne prend pas le mot mafia, mais dérive mafieuse, ça veut dire qu'effectivement, nous accumulons des phénomènes qui, si nous ne faisons pas attention, nous mèneront vers des constitutions mafieuses très clairement. Donc, effectivement, simplement, en paraphrasant Lénine, eh ben, il faut dire simplement que les dérives mafieuses sont l'antichambre de la mafia. Donc, faisons bien attention, il faut nous mobiliser. Donc, et effectivement, avec les collectifs, là, nous avons un débat sur, évidemment, les moyens utilisés d'un point de vue pénal.
On va y revenir, mais pour rester sur ces déclarations, pourquoi personne, aucun élu, à ce jour, bon, il y a eu un cas ou deux, mais c'était sur des affaires pas très importantes, ne reconnaît avoir subi des pressions? C'est l'omerta? La peur?
On peut utiliser le mot omerta. Oui, c'est la peur. Il n'y a pas que les politiques. Regardez un peu, moi je peux vous dire que je connais des militants qui ont été victimes d'attentats et qui ne sont pas allés porter plainte. Voilà. On a eu le courage de Marie Ferranti et de son mari quand ils ont effectivement dénoncé le racket, mais quand il dit après, ils ont dit, on a eu des tas de témoignages de personnes qui vivaient la même chose. Donc ça, c'est un état des lieux que personne ne peut nier. La prise de parole est encore effectivement relativement faible par rapport à ces agressions contre la citoyenneté, les libertés.
Jean Vitus ?
Oui, moi j'ai trouvé le débat assez décevant pour la fin, en tout cas pour la première partie en séance publique. Alors il paraît que les ateliers ont été plus intéressants, peut-être André Paco pourra nous le dire. En tout cas en séance publique, chacun s'est bien gardé de faire des propositions. Alors on a eu des analyses, qui étaient d'ailleurs parfois assez intéressantes, hein. Bon, il y en a eu d'autres qui étaient un peu moins, mais il n'y a pas eu de prise de responsabilité. Les élus n'ont pas pris leurs responsabilités. André Pacou dit on est dans l'antichambre. Non, 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 on est dans la chambre, on est dans toute la maison et du plancher au plafond. La mafia, elle est bien présente ici. C'est pas seulement les marchés publics. On peut faire confiance à Gilles Simeoni, hein, quand il dit que lui, il sera le garant. C'est vrai, sur les marchés publics, on peut lui faire totale confiance. Mais les marchés publics, ce n'est qu'une petite partie des choses. Dans le secteur économique, dans les déchets, par exemple, on va dire qu'il n'y a pas la mafia dedans ?
Et les pressions peuvent être plus sournoises.
Mais évidemment, les pressions peuvent être plus sournoises. Et le système mafieux, il s'est imposé partout en Corse. La seule question qui valait dans cette résolution, celle qu'il aurait fallu donner, c'est de demander à l'État de prendre des mesures, peut-être des mesures d'exception, limitées dans le temps peut-être, pour lutter contre ce phénomène. Alors je vois André qui secoue la tête,
parce
qui n'est pas du tout d'accord.
On va lui poser la question.
La seule chose efficace contre la mafia, ben, c'est un combat. Vous ne pouvez pas vous arranger, dans une discussion politique.
Et on peut regretter l'absence de l'État à cette session, parce que c'est quand même lui qui a le rôle majeur, le premier rôle pour lutter contre la mafia.
Et surtout en amont.
Oui, en amont. Guy Lourmont. Un petit commentaire et puis on donne la parole à André Pacou.
Il est évident qu'on ne rappellera jamais assez le rôle que doit jouer l'État et là, justement ses missions régaliennes dans ce dossier. Il est évident, je partage totalement l'avis de Jean Vitus concernant l'implantation de la mafia. Je partage également le fait que on parlait des marchés publics. Évidemment, les marchés publics qui relèvent de la CDC, on peut parfaitement faire confiance pour partie. Mais qu'en est-il des marchés publics dans les municipalités? Et bon, sans parler évidemment de la question foncière qui est intrinsèquement liée au phénomène mafieux que nous connaissons aujourd'hui et qui aujourd'hui ne trouve pas pour l'instant de solution.
Alors on l'a dit, André Pacou, vous êtes d'accord sur le constat. En revanche, contrairement au collectif, vous n'êtes pas favorable à une adaptation de la loi, à un renforcement de la loi, par exemple en créant un délit d'association mafieuse. Pourquoi ?
Oui, avec les collectifs et avec des journalistes, si j'entends bien ce qui se dit ce soir, mais ça je le savais d'avance. Hein. Simplement parce que d'abord les outils existent déjà et que je crois qu'il y a effectivement là matière à débattre sur ce que représentent déjà ces outils. Hein, l'association de malfaiteurs en bande organisée permet tout à fait de pouvoir poursuivre et condamner des gens qui pratiquent effectivement des dérives mafieuses. Donc les outils existent déjà et peuvent interroger, vous le savez très bien, qu'on peut avoir des regards critiques sur un certain nombre de choses, pas que la Ligue. Hein. Je rappelle quand même que la Commission nationale consultative des droits de l'homme a parlé de méthodes, effectivement, qui sont inquiétantes, dégradantes pour la police. Donc, et on peut en discuter. Hein.
Qu'est-ce qui vous fait peur ? Une justice d'exception ?
Mais c'est pas une question de peur, c'est une question de projet de société. Est-ce que effectivement, pour combattre des gens qui remettent en cause les libertés, on va utiliser des moyens qui vont remettre en cause les libertés ? Voilà, c'est ça le problème. C'est pas une question de peur. Là, la peur, je ne l'ai pas, la Ligue ne l'a pas. Et effectivement, même s'il faut reconnaître que les collectifs anti-mafia ont été moteurs d'une prise de conscience ces dernières années, je rappelle quand même que la Ligue des droits de l'homme a pris position dans nombre de situations où il y avait des atteintes graves aux personnes, aux individus, depuis maintenant 15-20 ans.
Vous êtes tant pour les tribunaux professionnels, par exemple, uniquement composés de magistrats ?
Non, parce que ça aussi, c'est un débat aussi important. Parce que le tribunal, avec un jury populaire, c'est un tribunal qui permet de rendre le citoyen acteur, qui permet de comprendre comment on fonctionne. C'est vraiment...
Rapidement, on arrive quasiment à terme.
Juste une précision. Aujourd'hui, dans Le Monde, Jacques Folleroux dévoile que les enquêteurs ont trouvé dans le portable d'un membre du Petit Bar tous les numéros de téléphone de jury qui siégeaient lors d'un procès d'assises où il y avait eu un meurtre. Ils ont tous été acquittés.
Ah. Eh bien, ça prouve bien qu'effectivement, il y a des améliorations à avoir dans le fonctionnement. Hein. Et moi, je pense que, par exemple, quand on dit il faut garantir le droit de la défense, on oublie une chose, c'est que quand effectivement le droit de la défense, les avocats de la défense apportent des éléments qui contrarient les thèses policières et permettent de, comme on dit, fermer des portes, parce qu'effectivement, on n'a pas les moyens de justifier ce qui s'est dit, eh bien, on fait avancer la vérité.
Patrick, 94 assassinats entre 2008 et 2013. 94 assassinats, 4% de poursuites et 0, quelque chose en termes de résolution.
Je vous remercie de relayer un propos que tient la Ligue depuis au moins 15 ans, c'est-à-dire non à l'impunité. Je vous remercie de le relayer.
Eh bien, ce sera notre conclusion sur cette partie. Il nous reste 2 minutes, on va parler du Qatar. Ne partez pas, Jean Vitus. Je vous levez, attendez un peu.
RCFM, le club de la presse.
André Pacou, le Qatar n'est pas à proprement parler un modèle de respect des droits de l'homme, hein, c'est un euphémisme. Suivez-vous la Coupe du Monde de foot qui a débuté dimanche dernier ?
Avec regret, je m'impose le fait de ne pas regarder les matchs de foot parce qu'effectivement, j'aimerais bien les regarder, mais comme vous le dites, ça vaut le coup de le dire. Je viens de voir que le Parlement européen a repris quelque chose que revendique la Ligue. Elle n'a jamais demandé l'interdiction ou le rejet de la Coupe du Monde, de simplement demander à la FIFA de reverser une partie de ses bénéfices qui sont énormes aux victimes effectivement de ce qui s'est passé lors de la construction et qui continue à se passer, qui ressemblait à de l'esclavagisme.
Voilà, c'est déjà une bonne chose. Jean Vitus, je sais que vous êtes un footeux.
Oui, c'est vrai. Bon, je ne regarde pas particulièrement, mais bon, aujourd'hui, le boycott, pour moi, ça, c'est de la rigolade. Ouais. Il aurait fallu ne pas donner la Coupe du Monde à ce pays, parce qu'on ne lui a pas donné, il a acheté. Ouais. On parlait de la mafia il y a 5 minutes, ben là, on pouvait en parler aussi. Elle ne tue pas, celle-là, mais par contre, elle corrompt, et elle corrompt à grande échelle.
Et on aurait pu réagir un peu avant, parce qu'elle a été
attribuée centaines d'ouvriers.
En 2010. Un dernier mot, Guillaume, rapidement.
Boycott hypocrite, là aussi, on aurait dû réagir bien avant. Et à côté de ça, Coupe du Monde particulièrement triste, je trouve, moi qui n'en ai jamais raté une, triste, bon, parce qu'en fin d'année, comme ça, on est habitué à une autre ambiance et à un autre cadre pour une Coupe du Monde. Je trouve que c'est un petit peu... anachronique d'avoir une Coupe du Monde à cette période de l'année et surtout organisée de cette manière.
Eh bien, merci Guillaume, ce sera notre conclusion. Il est 18h31, on a une minute de retard. Merci messieurs d'avoir participé à ce Club de la Presse. À jeudi prochain.
RCFM, le Club de la Presse.